Chérie Bibi et Cécilie, chapitre 15. Reine va parler. De ce dernier crime, Chérie Bibi recueillit une grande paix. Outre que la disparition du Canaq n'eût point été susceptible de donner des remords au plus honnête homme, avec lui s'en allait pour toujours la crainte que l'on connût le prodigieux secret. Et il y eut une période de bonheur parfait à la villa de la Falaise. C'était pour nos deux compères le paradis retrouvé. Dans tout cela, il n'y avait que ce pauvre monsieur Costaud qui faisait peine à voir. Il cherchait toujours Chérie Bibi, qu'il continuait de charger de tous les crimes de la contrée. D'abord, il ne faisait point de doute pour lui que le célèbre bandit eût assassiné de sa main et de son couteau le docteur Walter, dont on avait retrouvé le cadavre dans le grand salon du château du Touchet. Du reste, toutes les traces de Chérie Bibi relevées par le bon monsieur Costaud conduisaient soit au château du Touchet, soit à la villa de la Falaise, ce qui prouvait assez que Chérie Bibi n'avait point renoncé à l'idée de s'emparer du marquis. Aussi monsieur Costaud veillait-il sur celui-ci avec plus de zèle que jamais, mais avec le morne désespoir d'un policier qui est là de poursuivre une ombre qui lui échappe toujours. De morceau en morceau, on avait fini par découvrir la tête de l'épouse du docteur Walter, et cette nouvelle victime identifiée fut encore portée au compte de Chérie Bibi. Tant d'horreurs faisaient frissonner le pays de Caux, mais ne troublaient point les digestions de monsieur le marquis du Touchet, non plus que de son dévoué secrétaire Hilaire. En fait, Chérie Bibi et la ficelle n'avaient plus qu'à se laisser vivre et qu'à goûter désormais un repos bien gagné. Le premier redoubla d'amour pour Cécilie. Le second épousa Virginie et tous deux se laissèrent soigner, dorloter, avec la conscience de n'avoir rien négligé pour atteindre à ce sommet du bonheur d'où ils avaient failli si péniblement glisser dans le moment qu'ils croyaient l'avoir atteint. Ils étaient, c'était le cas de le dire, comme des coqs en pâte. Chérie Bibi engraissait. Cécilie, qui avait toujours connu le marquis bel homme, le menaça, le plus gentiment du monde, de ne plus l'aimer s'il ne se surveillait point. Alors, cette excellente épouse s'astreignit à des exercices qui faisait la joie du petit Jacques. Il se mettait à quatre pattes et le bébé sur le dos caracolait dans les allées de son jardin, à l'instar du bon roi de la poule au pot. C'est ce qu'il appelait faire de la gymnastique suédoise. Semblant vouloir mettre le comble à toutes ses félicités, la vieille marquise Douairière mourut. Chérie Bibi s'en réjouit au-delà de toute expression, dans le sein de la ficelle, quoique le dévoué secrétaire ne manquât point de lui reprocher l'indécence d'une allégresse aussi sacrilège. Mais Chérie Bibi n'aimait point sa mère. Cependant, elle ne l'avait guère gênée tant qu'elle avait vécu, et nous pouvons dire tout de suite, sans anticiper sur les événements, que cette mort tant souhaitée ne porta point bonheur au tendre époux de Cécilie. Le jour des obsèques, tout Dieppe défila derrière le corbillard et vint serrer la main du marquis, qui, sur les instances de la ficelle, avait apporté un grand air de désolation. Quelle ne fut pas la stupéfaction de Chérie Bibi en apercevant tout à coup le vicomte de Pontmarie, qui s'avançait vers lui avec la mine de circonstance et la main tendue. « Mon cher Maxime, prononça cet homme sans vergogne. Il est des heures où les anciens amis se retrouvent et où il est de leur devoir de tout oublier de ce qui les sépare pour ne se souvenir que de ce qui les rapproche. » Et comme le marquis restait devant lui, médusé par un aussi formidable aplomb, Pontmarie saisit la main de Chérie Bibi et la lui secoua avec toutes les marques d'un dévouement sans bornes. Sur quoi, voyant que l'autre, de plus en plus anéanti, ne lui résistait pas, le vicomte se pencha à l'oreille du marquis comme pour l'embrasser, ainsi qu'on est accoutumé à faire dans les grandes douleurs, et lui dit tout bas « Donne-moi 100 000 francs et tu n'entendras plus parler de moi. » Ayant dit, il n'attendit point la réponse et pénétra dans la foule en plaignant tout haut le malheur qui frappait la maison du Touchet. Chéri Bibi, appuyé sur la ficelle, le suivait des yeux. « Eh quoi, il était revenu, celui-là. Il avait osé. Ce n'est plus dans l'ombre qu'il rôdait autour de Cécilie. C'est en face qu'il venait le braver et l'insulter, lui, et essayer de le faire chanter. Bon mari, l'homme au chapeau gris, celui qu'il avait bien cru reconnaître sur l'escalier de la falaise, l'assassin du noble marquis, son père. » Tout à coup, Chéri Bibi serra fortement le bras de la ficelle. « Regarde !» lui siffla-t-il. « Mais regarde donc !» La ficelle suivit la direction du regard aigu, si aigu, de son maître, et il vit le vicomte de Pontmarie qui s'approchait de Rennes, tout éploré, tout lamentable, dans les longs voiles de deuil, et soutenu par sœur Sainte-Marie des Anges. Pontmarie s'arrêta devant Rennes et lui tendit la main. Mais celle-ci poussa tout à coup un cri strident et se renversa en arrière dans les bras de la religieuse. Le vicomte, tout à fait étonné de cette crise inattendue, dit tout haut « La malheureuse, elle devient folle !» Et il disparut. On s'empressait autour de Rennes. Chéri Bibi, la cérémonie terminée, fit monter rapidement la ficelle dans sa voiture. « Eh bien, lui dit-il, tu as vu lorsqu'il s'est approché de Rennes. Tu as compris ce qui s'est passé. Tu as entendu le cri de Rennes. Rennes, c'est tout. Et Pontmarie, c'est l'assassin. » « Eh bien, monsieur, ça ne nous regarde pas. » « Tu dis, ça ne nous regarde pas. Veux-tu que je te brise la ficelle pour un mot pareil? Tu oublies donc tout ce que ce misérable a fait souffrir à la marquise? Est-ce que tu crois que j'oublierais cela, moi, si j'avais la grandeur d'âme de lui pardonner la propre misère de ma vie passée et le châtiment que j'ai enduré à sa place? Vous ne devriez surtout pas oublier, monsieur, que c'est en passant par cette misère-là que vous avez acquis le bonheur présent. Ne faudrait-il pas que je lui en sois reconnaissant, peut-être? Pourquoi pas, monsieur? Tais-toi, tu n'es qu'un galopin. Comment? Voilà un monsieur qui a voulu me prendre ma femme et qui a assassiné mon père. Et tu veux que je le laisse tranquille? Ma parole, si je t'écoutais, je devrais lui dire merci et lui donner par-dessus le marché ce qu'il me demande. Que vous demande-t-il donc, monsieur? 100 000 francs pour que je n'entende plus parler de lui. Ah, donnez-les-lui, monsieur. Donnez-les-lui. Donnez-les-lui tout de suite. Est-ce que tu rêves? Non, non, monsieur le marquis, je suis bien éveillé, et c'est avec toute ma raison que je vous dis, donnez à cet homme les 100 000 francs qu'il demande, et ne nous occupons plus de rien que d'être heureux. Ah, monsieur, nous sommes sortis de tant de vilaines histoires, et si bien à notre honneur, que je ne vous verrai pas sans chagrin vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Vengez le vieux marquis du Touchet. Personne n'y pense plus, monsieur. Et rien n'est moins sûr, après tout, que monsieur de Pontmarie soit un assassin. Réhabiliter Chéri Bibi, c'est une tâche au-dessus des forces humaines. Soyons heureux, monsieur, avec nos femmes. Je vous en supplie. Tu n'as pas de cœur, la ficelle. Non, mon garçon, tu n'as pas de cœur. Tu t'abandonnes aux délices de Capoue. C'est bien, j'agirai tout seul. Tu peux descendre de voiture. Non, monsieur. Tu ne veux pas descendre de voiture? Non, monsieur. Je suis persuadé que monsieur le marquis a tort. Se ravisa immédiatement la ficelle sur un geste menaçant de son maître. Mais je ferai tout ce que monsieur le marquis voudra. Ah, ce n'est pas trop tôt. Eh bien, mon petit, il faut que Rennes parle. Je suis persuadé qu'elle n'a qu'à dire un mot et nous serons débarrassés de Pontmarie. Mieux qu'avec 100 000 francs dont il aura toujours besoin. Écoute donc ce que je vais te dire. Tu vas aller trouver sœur Sainte-Marie des Anges. De votre part? Non, je ne veux pas paraître en tout ceci. C'est plus prudent, fit observer la ficelle. Je ne veux pas paraître en tout ceci pour que l'on ne croie pas que le coup qui va frapper pour Marie soit le résultat d'une vengeance quelconque de ma part. On sait qu'il y a eu des histoires entre moi et lui et ma femme, et je ne veux point que Cécilie, pas plus que moi, soyons mêlés à cette aventure. Il sera accusé du crime parce que Rennes dira qu'il est le coupable. C'est bien simple. Mais moi, qu'est-ce que je dirai à Sœur Sainte-Marie des Anges? Tu lui diras qu'il y a des personnes, sans les nommer, qui ont pitié d'elle, qui ne voient point sans chagrin tout le bruit qui se fait à propos des derniers crimes sur le nom de Chérie Bibi, que ces personnes sont persuadées, comme elle-même, que son frère, qui est réellement mort, n'est pour rien dans toutes ces abominations, et qu'il est aussi innocent des crimes actuels que de celui du vieux marquis du Touchet. Tu ajouteras que ces personnes sont au courant de la confession que Rennes, la dame de compagnie de la vieille marquise, lui a faite un jour, à elle, sœur Sainte-Marie des Anges, relativement à l'innocence de Chérie Bibi, et qu'elles estiment que le moment est venu où Rennes doit dévoiler la vérité, qu'elles comprennent parfaitement qu'elle est attendue si longtemps pour nommer le coupable, sachant que c'était un ami intime de la maison, et en particulier de monsieur le marquis Maxime, mais que maintenant les choses sont bien changées et qu'elle n'a plus rien à redouter de personne, qu'elle sera soutenue dans son œuvre de justice, et qu'elle ne doit plus tarder si elle ne veut point laisser le temps aux misérables de commettre de nouveaux méfaits. Enfin, tu laisseras entendre que les personnes qui s'intéressent ainsi à la bonne reine ont assisté à son évanouissement, aux obsèques de la marquise Douairière, en face de monsieur le vicomte de Pontmarie, et qu'elles ont compris la cause de son émoi. C'est tout ? Demanda la ficelle d'un air fort ennuyé. C'est tout. Tu vois que ce n'est pas bien compliqué. Sache seulement ce que Rennes compte faire et ce qu'elle répondra à sœur Sainte-Marie. Bien, monsieur. Et quand dois-je voir sœur Sainte-Marie ?
Tout de suite. Cours la trouver. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.
Cadol va me déposer à la villa et te reconduira à Dieppe. Là, tu iras tout de suite à l'hôpital et tu demanderas la sœur. Chérie Bibi alla retrouver Cécilie, qui, très fatiguée des nuits passées au chevet de la défunte, n'avait pu assister aux obsèques, suivant l'ordre du médecin. La pauvre femme jeta ses bras au cou du marquis dès qu'il entra. Tant qu'il n'était pas là, elle vivait dans les transes, à cause toujours de ce chéri Bibi, qui, d'après M. Costaud, continuait à assassiner tout le monde et lui avait tué le bon docteur Walter. « Sais-tu, ma chérie, qui est venue me serrer la main au cimetière ? L'abominable Pontmarie !
Il a osé ? » s'écria-t-elle.
« Il a osé, et sais-tu ce qu'il m'a demandé pour qu'on n'entende plus parler de lui ? 100 000 francs.
« Donne-les-lui » fit-elle sans hésitation.
« Tiens, » pensa chérie Bibi, « elle parle comme la ficelle. »
« Donne-les-lui plutôt deux fois qu'une, et qu'on ne le voit plus, il nous porterait malheur. »«
J'y réfléchirai, » répondit chérie Bibi tout pensif. Mais, une heure plus tard, la ficelle arrivait avec d'excellentes nouvelles.
« Monsieur le marquis, » dit-il quand ils furent tous deux enfermés dans le bureau, « c'est vous qui aviez raison. Vous avez bien fait de ne pas donner les 100 000 francs à ce Pontmarie. Il est perdu. » Rennes va parler.
C'est donc vrai ?
S'écria chérie Bibi, dont les yeux brillaient de joie méchante, car ce Pontmarie, il le détestait bien, à cause surtout de la jalousie qu'il lui avait fait autrefois endurer.
Ah, je n'ai pas eu de long discours à faire. Sœur Sainte-Marie des Anges a été d'abord très troublée de ma communication. Et puis, voyant que j'étais si bien renseignée, elle m'a dit :
Eh bien, monsieur, « dites à ceux qui vous envoient qu'ils peuvent se réjouir autant que moi. Rennes aura parlé avant 15 jours. »
Et elle me confia que la malheureuse reine était dans tous ses états à la suite de ce qu'elle avait vu au cimetière, et que l'audace de Pontmarie venant lui serrer la main à elle l'avait bouleversée.
« Le brigand » a-t-elle dit en sortant de son évanouissement. « Il sera châtié de son crime. » Elle a dit ça?
C'est sœur Sainte-Marie qui me l'a répété. La brave petite sœur, elle ne se sent plus de joie. Elle fait plaisir à voir. Elle est toute rajeunie. Elle a dit « Enfin, la justice de Dieu arrive. Pauvre chérie Bibi. »
Elle a dit « Pauvre chérie Bibi. »
Elle l'a dit en pleurant.
La brave fille. Et je me suis sauvée, parce que moi aussi, je sentais que j'allais pleurer.
Et tu n'as pas demandé si Reine avait des preuves?
Ah, si, monsieur, elle en a, il faut croire. On m'a parlé à mot couvert d'un portefeuille.
Tu ne me le disais pas, ton mari est fichu.
Monsieur, je le crois.
Eh bien, dansons un rigodon.
Et entraînant la ficelle, chérie Bibi dansa. Tant il est vrai que l'homme, dans l'ignorance où il est de toutes choses et surtout de son destin, après avoir pleuré souvent sur des événements qui préparent son bonheur, se réjouit aveuglément de ceux qui apprêtent sa ruine.
Les jours suivants, en attendant que Reine parlât, chérie Bibi prépara tout pour un petit voyage. On irait passer l'hiver dans le Midi, bien loin d'un tas de vieilles histoires qui seraient oubliées au printemps. Pendant l'absence de la famille, de grands travaux devaient être exécutés au château du Touchet, qui allait être aménagé d'une façon digne de la nouvelle fortune de cette illustre maison. La saison suivante, en effet, on quitterait la villa de la Falaise pour habiter le château. On commença même tout de suite le travail de transformation dans les combles et couvertures qui avaient bien besoin d'être réparés. Les peintres s'empressèrent de gratter les vieilles peintures des chambres du second étage qui seraient entièrement refaites à neuf. Monsieur le marquis du Touchet, sans sa hâte de mettre tout en train, ne quittait plus le château ni son architecte. La vérité est qu'il cherchait dans ce surmenage volontaire un dérivatif à ses pensées, une distraction à son impatience. Reine allait-elle enfin se décider? Qu'attendait-elle? Pontmarie n'avait pas quitté Dieppe dans l'attente de ses 100 000 francs, et chérie Bibi, qui avait dû entrer en correspondance avec ce vilain personnage, faisait traîner les choses de telle sorte qu'il ne put s'éloigner. Cependant, il redoutait que Pontmarie ne perdît patience. Aussi envoyait-il de temps à autre la ficelle vers sœur Sainte-Marie des Anges, qui faisait répondre « Les temps sont proches! Les temps sont proches !» Sur ces entrefaites, Monsieur Costaud, bien persuadé cette fois que chérie Bibi avait de nouveau quitté la contrée, annonça au marquis son prochain départ pour Paris et celui de ses agents. Costaud avait montré tant de dévouement pour le marquis que celui-ci ne voulut point le laisser s'en aller sans lui donner une grande marque de sa faveur. En dépit du deuil récent, il l'invita à dîner. Cécilie, qui avait beaucoup de reconnaissance également pour M. Costaud, approuva son mari et, comme le vieil ami de la famille, Maître Régime, était revenu à Dieppe pour les affaires du marquis, elle l'invita également. Oh, sans cérémonie, un modeste petit dîner d'adieu. Pour une fois, chérie Bibi ne voyait point partir son ami Costaud sans désagrément. Il eût voulu qu'il fût encore là au moment des révélations de Reine, et que ce fût cet agent modèle qui mit la main sur Pontmarie, comme il l'avait mise autrefois sur lui, chérie Bibi. Alors il dit à la ficelle, « Mon petit, il faut décider cette vieille toquée de Reine. Va retrouver sœur Sainte-Marie des Anges et apprends-lui que M. Costaud nous quitte. » Mais qu'avant son départ, monsieur le marquis du Touchet l'a invité à dîner. Ce dîner aura lieu demain soir, et fais-lui entendre que nul autre mieux que ce monsieur Costaud ne semble désigné pour mettre la main sur le véritable assassin du défunt marquis, lui qui a arrêté autrefois chérie Bibi. Grande fut la joie de monsieur le marquis du Touchet quand son secrétaire Hilaire revint de son expédition avec ces paroles décisives. Les preuves que Reine avait mises en sûreté et qu'elle attendait sont arrivées. Reine parlera demain soir chez monsieur le marquis du Touchet
devant monsieur l'inspecteur Costaud.
« Je n'en demande pas plus !» s'écria chérie Bibi.
« Ah bien, on va rire. Compte sur moi, mon vieux Laficelle. Ça va être magnifique !»«
Pourrais-je savoir ce que monsieur le marquis entend par ces mots ?» demanda timidement Laficelle.
« Ça ne te regarde pas. »«
Ah, dis donc, j'y pense. Rien n'est plus simple que d'inviter Reine à ce dîner. »«
Gardez-vous-en. Son dessein, m'a dit la sœur, est d'arriver au dessert, sans être attendue. Et elle veut que tout le monde ignore qu'elle doit venir, même monsieur le marquis. »
a-t-elle dit à sœur Sainte-Marie.
Elle a peur, sans doute, qu'au dernier moment je prévienne pour Marie, qui a été si longtemps mon amie.
Eh bien, oui, la ficelle, je vais le prévenir. Et comment ?
En effet, voici le mot que le soir même, monsieur le marquis du Touchet faisait parvenir à monsieur le vicomte de Pontmarie.
Monsieur, je suis de votre avis, il faut en finir. Trouvez-vous demain à 6 heures du soir à la petite porte du château du Touchet donnant sur l'escalier de la falaise. Je vous introduirai moi-même. Apportez toutes les photographies relatives aux lettres que vous savez. Vous me donnerez votre parole d'honneur qu'il n'en reste pas une en votre possession. Et moi, je vous donne la mienne, que vous toucherez les 100 000 francs.
On était au mois d'octobre. Il faisait nuit noire lorsqu'à 6 heures, le lendemain, monsieur de Pontmarie se trouva à l'endroit indiqué. Chéri Bibi lui ouvrit la porte lui-même et le précéda dans les jardins déserts et dans le château, abandonné depuis plus d'une heure par les ouvriers. Il le fit monter au premier étage, et comme il lui indiquait l'escalier conduisant au second, l'autre eut un mouvement d'impatience. Le marquis du Touchet se retourna, mit un doigt sur ses lèvres pour réclamer le silence, et, lui montrant la porte,
« La marquise est là. Réglons notre affaire sans la déranger, si vous le voulez bien. »
Il mentait. Mais Pontmarie suivit, sans se méfier. Arrivé dans le couloir du second, chéri Bibi dit encore « Ici, nous sommes chez nous. » Et brutalement, avant que Pontmarie ait eu le temps de dire « ouf » ni de faire un geste, il l'envoyait rouler dans un cabinet noir, se jeter sur lui, lui lier bras et jambes, comme seul chéri Bibi savait le faire, lui mettait un baillon et lui vidait les poches, s'emparait du paquet de photographies, d'un revolver et se relevait en lui disant « À tout à l'heure !» Il fermait la porte à double tour et tranquillement quittait le château pour se rendre à la villa de la falaise. Là, il allait trouver Cécilie, l'embrassait tendrement et lui annonçait que le dîner n'aurait point lieu à la villa mais au château, dans la grande salle à manger. Stupéfaite, la marquise demanda des explications. Mais chéri Bibi ne lui en donna point. Il l'embrassa à nouveau, et plus tendrement encore que tout à l'heure.
« Ma chérie, se contenta-t-il de dire, réjouissez-vous sans m'en demander la raison que vous connaîtrez tout à l'heure. C'est une bonne surprise que je veux vous faire. Seulement, il faut m'obéir aveuglément. Nous dînerons ce soir au château du Touchet, et vous mettrez 3 couverts de plus, je vous en prie. »
« Mais, mon ami, y songez-vous ? Nous avons déjà Monsieur Costaud et Maître Régime. 3 couverts de plus, cela va faire un grand dîner. 15 jours après les obsèques de la douairière. »
« Aveuglément, je vous demande de m'obéir. »
« Bien, mon ami, il sera fait comme vous le désirez. »
« Je n'en attendais pas moins de vous, ma bonne Cécilie. »
« Et puis-je vous demander pour qui ces 3 couverts ?»«
Mais comment donc ? C'est pour monsieur le commissaire de police qui nous a évité bien des ennuis lors des constatations de l'assassinat du docteur Walter. Pour monsieur le juge d'instruction, qui a été lui-même fort aimable, et pour monsieur le président du tribunal, qui était un grand ami de ma mère. »
Sur ces paroles, il sortit réclamant son auto. Et Cécilie resta bien 5 minutes à se demander pour quelle raison son époux bien-aimé tenait à avoir tant de magistrats ce soir-là autour de la table de famille. Elle ne la trouva point. mais le principal était qu'elle donna des ordres pour le dîner au château, ce qu'elle fit sans plus tarder. Chéri Bibi s'était fait conduire à Dieppe, où il fit quelques visites. Il revint à Puy avec 5 personnages armés jusqu'aux dents. C'était Monsieur Costaud et ses agents. Monsieur le marquis du Touché avait annoncé fort mystérieusement à Monsieur l'inspecteur de la Sûreté Générale qu'il lui réservait, pour le dessert, une surprise d'une nature telle qu'il l'engageait à se faire accompagner par quelques-uns de ses plus solides amis. « Allons-nous enfin arrêter, chéri Bibi ?» avait demandé immédiatement Monsieur Costaud, qui ne pensait qu'à son brigand. « Peut-être !» avait répondu de plus en plus énigmatique Monsieur le marquis du Touchet. Les invités arrivèrent à 8 heures et furent tout étonnés de se rencontrer dans un dîner aussi solennel, et que le deuil récent du marquis et de la marquise rendait inexplicable. Mais Monsieur Costaud, clignant de l'œil comme quelqu'un qui est renseigné, leur laissa entendre que leur amphitryon n'avait pas dérangé pour rien les plus hauts représentants de la magistrature du pays. Ils s'étonnèrent aussi de ce que le dîner leur fût servi non point dans la villa, mais au château, déjà tout bouleversé par les ouvriers, et qui sentait le plâtre et la térébenthine. À quoi M. Costaud répondit encore, en reclignant de l'œil, que M. le marquis devait avoir ses raisons. M. Costaud avait ordonné à ses agents, sur les conseils de chéri Bibi, de se promener dans le parc et de se tenir prêt à accourir au premier signal. Quant à la ficelle, il avait été laissé à la villa de la Falaise, où il devait attendre Reine et Sœur Sainte-Marie des Anges pour les conduire au château. Pendant le dîner, la conversation fut assez languissante. On ne comprenait rien à ce qui se passait, et chacun interrogeait le visage de Monsieur le marquis, qui conservait son secret. Chéri Bibi ne cessait de regarder du côté du parc, comme s'il attendait quelqu'un qui tardait à venir. Enfin, il vit passer, et il fut le seul à les apercevoir dans la lumière qui tombait des fenêtres, la ficelle précédant Reine et Sœur Sainte-Marie des Anges. Les deux femmes lui parurent d'une grande pâleur. Son secrétaire les conduisait, selon ses instructions, dans le salon qui était adjacent à la salle à manger. Alors il se leva, s'excusa, demanda à la noble société la permission de s'absenter quelques instants, l'incita à la patience, il tardait un peu à revenir, et monta au second étage, où il retrouva, ficelé sur le parquet du petit cabinet noir, son prisonnier. Il le prit dans ses bras et s'en fut le déposer dans un fauteuil d'une chambre contiguë. Il alluma une lampe, ôta le bâillon du prisonnier, attendit que celui-ci pût, sans contrainte, respirer tout son soûl, et arrêta dès leur origine les protestations indignées de M. de Pontmarie par ces mots. « Monsieur, j'ai vu les photographies, elles y sont toutes. Vous m'aviez promis que vous n'en garderiez aucune par-devers vous. J'ai cru dans votre parole et j'ai bien fait. Mais vous n'aurez point les 100 000 francs. Je paierai votre audace et vos crimes comme il convient, en faisant arrêter immédiatement, sur le théâtre même de ces forfaits, l'assassin du marquis du Touchet, mon père. » Chapitre 16. Fatalitas. « Tu dis ?» hurla Pontmarie en faisant un bond sur son fauteuil et en usant d'une force insuffisante pour le délivrer de ses liens. « Qu'est-ce que tu dis ?»«
Je dis que tu es l'assassin de mon père. »«
Eh bien, et toi ?»«
Comment, moi ?» interrogea chéri Bibi interloqué.
« Oh, ça !»
gronda l'autre qui tremblait de rage dans son filet de corde et dont la face menaçante, toute la figure révoltée, se dressa contre le visage du faux marquis du Touchet.
« Ah, oh, ça! Tu sais qu'il ne faudrait pas jouer longtemps ce jeu-là avec moi, mon petit. Et si tu espères te débarrasser de ton ami Pontmarie par ce moyen, il faut que tu aies complètement perdu la tête. Hein? Ce n'est pas sérieux !»«
C'est si sérieux ?» reprit l'autre, mais d'une voix moins assurée, car il y avait dans les phrases furieuses de Pontmarie quelque chose qu'il ne comprenait pas bien.
« C'est si sérieux que M. Costaud est en bas avec ses agents pour te mettre la main dessus, et que rien ne peut plus empêcher, à cette minute, que tu ne reçoives le châtiment que tu as bien mérité. Assassin, maître chanteur. »
Pontmarie ouvrait des yeux énormes, essayant de comprendre la conduite du marquis du Toucher à son égard et le considérant comme un fou. Il finit par ricaner.
« Non, non, tu ne feras pas cela. Tu me prends pour un autre, et tu ne réveilleras pas une histoire pareille. Tu ferais mieux de me donner les 100 000 francs, va, et de me laisser filer. Tu ne parviendras pas à me faire peur. Tout ton prisonnier que je suis, je reste plus fort que toi. »
À cause ?
À cause que tu sais bien que je ne me laisserai pas faire. Tu as beau avoir la mémoire courte, mon garçon, tu n'as pas oublié que lorsque j'ai donné le coup de couteau, c'est toi qui me tenais la chandelle. »
Cette fois, ce fut le tour de Chéri Bibi de bondir, car il était sur le point de comprendre, et l'horreur d'une situation qu'il s'était créée lui-même, sans s'en douter, faisait déjà que ses cheveux se dressaient sur sa tête. Il s'était penché sur Pontmarie et lui soufflait, l'écume aux lèvres,
« Tu mens ! Tu mens !»«
Ça ne prend pas, » répliquait l'autre. « Non, non, ça ne prend pas. Tu tairas ta gueule ou je saboterai. »«
Tu mens !» continuait de râler Chéri Bibi. « Tu sais bien que tu mens !»
Mais Pontmarie lui lançait de sa lèvre mauvaise et rageuse.
« Si tu y tiens absolument, tout le monde saura que le véritable assassin du marquis du Toucher, c'est son fils. »
Chéri Bibi lâcha Pontmarie et recula en faisant entendre un rauque gémissement. Haletant, hagard, il fixait son prisonnier, qui continuait, sombre et railleur maintenant, et sûr de lui.
« Moi, vois-tu, je n'ai jamais été que ton complice, et tu le sais bien. Et ce n'est que pour te sauver que j'ai donné ce coup de couteau-là. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas, cher ami. Allons, délivre-moi, et reconduis-moi gentiment jusqu'à ta porte. » « Sans casse, autant que possible. Nous reprendrons cette conversation un autre jour. Ce soir, vois-tu, mon pauvre Maxime, tu es un peu ma boule. »
Et comme l'autre, qui semblait maintenant être changé en statue, ne bougeait pas, il reprit brutalement
« Allons, dépêche-toi. Qu'est-ce que ça signifie, une comédie pareille? Tu as voulu m'intimider, dis? Tu ne veux plus raquer? Depuis que tu es revenu, tu es salement avare. » Et tu trouves sans doute que je t'ai déjà coûté trop cher. Imbécile, rappelle-toi le temps où tu étais pourri de dette, où nous ne savions plus où trouver un billet de 1 000. Rappelle-toi le soir où tu m'as dit « Le père Bourrelier est allé toucher la forte somme cet après-midi à Dieppe, et là le porte-monnaie bien garni. » Rappelle-toi, comme sur tes indications toujours, je l'ai attaqué sur la falaise. Rappelle-toi notre colère en constatant que ce fameux portefeuille ne contenait qu'une somme insignifiante à côté de ce dont nous avions besoin, si bien que je regrettais le coup pour lequel on recherchait déjà ce pauvre petit Chéri Bibi. Rappelle-toi cet autre soir, le soir suivant, où tu m'as dit « Nous n'avons plus qu'à voler mon père » et où tu m'as envoyé ce petit mot qui me donnait rendez-vous la nuit dans le parc du château en me recommandant d'apporter tout ce qu'il fallait. Bon Dieu, tu tremblais assez cette nuit-là quand tu es venu me rejoindre. Ah, je vais te rafraîchir la mémoire, moi. Oui, j'avais apporté tout ce qu'il fallait. J'avais même apporté le couteau dont j'ai frappé ton père, quand il est venu nous surprendre au début de l'opération et que tu le maintenais, et que j'ai cru que vous alliez vous étrangler tous les deux. Rappelle-toi comme je lui ai fait lâcher prise, et comme il était temps. Et comme tu claquais des dents en me cachant dans ta chambre, sous ton lit, pendant que nous écoutions les bruits de la maison et que l'on arrêtait ce Chéri Bibi du ciel qui nous sauvait. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Tu te trouves mal?
Fatalitas, gémissait Chéri Bibi en s'effondrant sur le coin d'un canapé et en s'arrachant les cheveux.
Fatalitas! J'ai pris la peau d'un honnête homme, et c'était encore un assassin.
Il avait prononcé cette phrase bizarre à laquelle Pont-Marie ne pouvait naturellement rien comprendre, avec une si immense désespérance, un accent de douleur si surhumain, que Pont-Marie crut cette fois que le marquis avait tout à fait perdu l'esprit. Il le vit se dresser encore, pousser un soupir effrayant, lever au plafond des mains tremblantes, aux doigts crispés sur une invisible proie, et crier d'une bouche de folie « J'ai tué mon père ! J'ai tué mon père !»«
Eh bien, ne le crie pas si fort, et si ça te fait tant d'effet que ça qu'on te le dise, laisse-moi partir !»«
Mon fils a un père assassin ?»«
Oh, il est tout à fait fou ! Laisse-moi partir, entends-tu ?»«
Oui, oui !» fit Chéri Bibi tout à coup, en se passant les mains sur le visage, comme s'il voulait chasser les ombres hideuses qui l'assiégeaient.
« Oui, oui, va-t'en. Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut pas que l'on t'arrête. Il ne faut pas que tu parles. Il faut que tu te taises pour toujours. Pour toujours. »
Ces deux derniers mots, « pour toujours », lui embrasèrent soudain le cerveau, semblèrent lui indiquer tout à coup le seul geste qui put vraiment cette fois le délivrer. Ses yeux regardèrent férocement Pont-Marie.
« Et si je te tuais, tu ne parlerais plus jamais ?»«
Jamais !»
Pont-Marie le vit s'avancer sur lui si décidé qu'il pâlit atrocement et se crut perdu. Il lui jeta
« Prends garde, mon cadavre pourra t'embarrasser. Est-ce que j'ai parlé depuis si longtemps ? Si longtemps ? Est-ce que je n'ai pas, comme toi, intérêt à me taire ? Personne ne sait rien. »
« Voilà ce qui te trompe. Il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est venu te dénoncer. Quelqu'un qui parle peut-être en ce moment au magistrat que j'ai fait venir moi-même. Qui donne ton signalement aux agents dont j'ai entouré moi-même ce château. Quelqu'un à qui tu crieras « J'ai assassiné le père, mais son fils était mon complice. Tu vois bien qu'il faut que tu meures. »
« Hé, ce que tu dis est impossible !»
gronda sourdement Pont-Marie.
« Impossible ! Qui est ce quelqu'un, là ? Qu'est-ce que tu inventes encore, là ? Quelle preuve peut-il avoir ? Il s'en serait servi depuis longtemps. »
« C'est Reine. »«
Reine ? La dame de compagnie de ta mère ?
Elle-même.
Rappelle-toi comme elle s'est évanouie quand tu t'es avancé vers elle à l'enterrement. »
« Mais, triple insensé que tu es, si elle sait que j'ai tué le marquis !»
Elle sait également que tu m'y as aidé.
Le crois-tu ?
Demanda franchement Chéri Bibi en s'enfonçant les ongles dans les chairs de ses joues qui en furent ensanglantées.
Si je le crois, mais comprends donc que si vraiment elle sait, elle n'a attendu pour parler que la mort de ta mère.
Misérable que je suis ! C'est en effet le jour de l'enterrement de la marquise qu'elle a dit qu'elle parlerait. Tu vois ? S'il n'y avait eu que moi, il y a beau temps qu'elle m'eût dénoncé. Eh bien, allons, il faut fuir. Fuir tous les deux.
Attends, quelle preuve a-t-elle ?
Est-ce que je sais, moi ? Avant de la mener ici et de me ficeler comme un saucisson, vois-tu, Maxime, tu aurais dû le lui demander.
Assez, ne raille pas. Nous n'avons pas un instant à perdre. Mon Dieu, réfléchissons. Il faut que Reine ne parle pas. Si elle a une preuve... Il faut qu'elle ne la montre pas.
Mais enfin, toi qui es si bien renseignée, tu ne sais rien. La nuit du crime, elle nous a peut-être vus. Mais ce n'est pas suffisant, cela. Ça n'est pas une preuve.
Je sais qu'il y a un portefeuille.
Un portefeuille ? S'écria Pont-Marie. Le portefeuille du père Bourrelier.
Et sais-tu ce qu'il y a dans ce portefeuille ?
Attends donc. Oh, misère, j'y suis. Ce ne peut être que ce billet que nous avons tant cherché avec le portefeuille du père Bourrelier dans lequel je l'avais mis, pour te le rapporter comme tu me le demandais, ce billet dans lequel tu me donnais rendez-vous pour la nuit au château du Toucher. Oui, c'est ce mot-là qu'elle a. Nous l'avons assez cherché. Nous avons fini par croire que je l'avais perdu en mer avec le portefeuille, car pour venir, j'avais pris à Dieppe une petite barque.
Eh bien, c'est ce mot-là qu'elle a. C'est sous le lit de ta chambre, vois-tu, que je l'avais perdu. C'est là qu'elle l'a trouvé.
Fatalitas ! Gronda Chéri Bibi. Eh bien, mon vieux, nous sommes...
Ah, coupe mes cordes, nom de... Il ne faut pas qu'elle parle, ou nous sommes tous les deux, tous les deux. Ce n'est pas moi qu'il faut tuer, mon vieux, c'est Reine.
Pendant que Pont-Marie parlait, les yeux de Chéri Bibi chaviraient. Il se sentait suffoqué, étouffé. Il était perdu. Il arracha sa cravate, fit « Hein !» et l'on n'eût pu dire s'il expirait ou s'il revenait à la vie. Toute chose autour de lui tournait. Cette phrase dansait en lettres rouges sur le mur blanc.
« Ce n'est pas moi qu'il faut tuer, c'est Reine !»
On frappa à la porte. Il tressaillit. Il avait reconnu cependant la manière de frapper de la ficelle. Il alla lui ouvrir, c'était bien lui. Il avait une lettre à la main.
« De la part de Reine, pour monsieur le marquis, » dit-il.
Chéri Bibi prit la lettre. Et pendant que la ficelle ouvrait des yeux et une bouche énorme, en apercevant Pont-Marie dans un fauteuil, ficelé comme un boudin, il lui dit d'une voix sourde « Prie Reine de monter. »«
Bien, monsieur le marquis. »«
Tu entends, il faut qu'elle monte. »«
Bien, monsieur le marquis. »
Alors Chéri Bibi referma la porte, s'adossa au mur, et d'une main qui tremblait comme celle d'un vieillard alcoolique, il déchira l'enveloppe. Il avait reconnu du papier de chez lui, comme il en avait sur le bureau du petit salon. Reine avait écrit ce mot à la minute même. Peut-être se ravisait-elle, peut-être ne voulait-elle plus parler maintenant. Ses yeux brouillés déchiffraient avec peine l'écriture. Enfin, il lut.
« Monsieur le marquis, je connais votre crime et celui de monsieur de Pont-Marie. Inutile, n'est-ce pas, que je précise lequel ? Je me suis tue tant que madame votre mère a vécu, car je lui étais tellement dévouée, et je l'aimais tant, que pour lui garder la paix et l'honneur de ses derniers jours, je crois bien lui avoir fait le sacrifice du repos de mon âme. J'ai laissé condamner sciemment un innocent. Mais l'heure de l'expiation a sonné. Je suis venue ce soir chez vous, monsieur le marquis, sachant que j'y trouverai des magistrats, dans le dessein de vous dénoncer à la justice des hommes. Cependant, en pénétrant dans ce vieux château où j'ai vécu tant d'années dans une famille respectée, mon cœur a été saisi de pitié, et je me suis dit qu'il suffirait peut-être d'aider la justice de Dieu. Monsieur le marquis, j'ai la preuve de votre crime. Je jure sur la tombe de ma chère maîtresse, votre mère, que je détruirai cette preuve si vous avez le courage de vous châtier vous-même. Il faut vous tuer, monsieur le marquis. »
Chéri Bibi mit la lettre dans sa poche.
« Eh bien ? » demanda Pont-Marie.
« Que dit-elle ? »
« Rien qui te regarde, » répondit l'autre, très pâle. « Elle ne parle même pas de toi. »«
Qu'est-ce que je te disais ? Elle n'attendait que la mort de la vieille, bien sûr.
« La garce ! Allons, Maxime, détache-moi. »
« Mais détache-moi, nom de... Tu vois bien qu'il faut se carapater. »«
Attends donc, » fit Chéri Bibi d'une voix effroyablement lugubre. « Elle va peut-être monter. »«
C'est notre dernier espoir ?»«
Oui. »
On refrappa à la porte. C'était la ficelle qui revenait avec la réponse de Reine. La bonne vieille demoiselle était toujours au salon avec sœur Sainte-Marie et déclarait qu'elle ne voulait pas monter, qu'elle n'avait plus rien à dire à monsieur le marquis. Cependant, elle avait encore écrit quelques mots qu'elle avait mis sous enveloppe. Chéri Bibi se jeta dessus.
« Je vous donne une demi-heure, » disait la nouvelle missive. C'était bref, mais significatif.
Chéri Bibi arracha une feuille de son carnet et écrivit.
« Vous avez eu autrefois pitié de ma mère. Ayez aujourd'hui pitié de ma femme et de mon enfant. » Ne les privez pas d'un mari et d'un père qui les adore et qui se repent amèrement de toutes les fautes d'autrefois. C'est moins ma personne que vous frapperiez qu'une malheureuse famille innocente. Songez-y et ne soyez pas plus implacable que la justice des hommes pour laquelle il y a prescription. »
Il plia le mot en quatre et le donna à la ficelle qui le regardait faire, affolée de voir sa mine défaite et ses doigts tremblants.
« Oh, mon Dieu, que se passe-t-il ?
demanda pitoyablement le dévoué secrétaire. « Je t'expliquerai cela tout à l'heure, » fit Chéri Bibi d'une voix rauque. « Va, fais lire ça à Reine et arrache le mot ensuite, ou plutôt rapporte-le-moi, car je ne tiens pas à ce qu'il s'égare. » La ficelle s'esquiva, affolée.
« Bon Dieu !» jura Pontmarie. « Elle ne monte pas. Eh bien, il faut descendre la chercher. La faire taire coûte que coûte. »«
Pas possible !»
répliqua avec un calme terrible Chéri Bibi. « Elle ne quitte pas Sœur Sainte-Marie. »«
Eh bien !»«
Eh bien !» fit l'autre de plus en plus froid. « Je ne puis pas tuer Sœur Sainte-Marie. »
« À cause ?»«
Ça ne te regarde point. »«
À cause que c'est une religieuse ?»«
Oui, c'est cela. »
Alors Pontmarie beugla encore.
« Mais délivre-moi, nom de... »
« Tu jures le saint nom de Dieu, Pontmarie, ça te portera malheur. »
fit Chéri Bibi tout pensif. En attendant la réponse de Reine, il s'assit et se prit la tête dans les mains, n'entendant même plus les réclamations, gémissements et malédictions de Pontmarie. La ficelle ne fut pas absente 5 minutes.
« Ah, monsieur le marquis, Reine et sœur Sainte-Marie sont aussi pâles que vous, bien sûr. Je vous avais bien dit que vous aviez tort de vous mêler d'une histoire pareille. »
La réponse ?
« La voici avec votre petit mot. »
Et il tendit encore une enveloppe où se trouvaient les 2 papiers. Chéri Bibi lut. « Y a-t-il prescription aussi pour votre dernier crime ? Et croyez-vous que je vais avoir pitié d'un homme qui, après avoir assassiné son père, a tué presque sous mes yeux, car je suis arrivé au moment où vous le frappiez, le malheureux docteur Walter ? Il y a trop de sang contre vous, monsieur le marquis, et je ne veux pas plus longtemps par mon silence être la complice de vos forfaits. Si, à la minute que je vous ai fixée, je ne suis point sûr de votre mort, j'apprendrai, moi, à monsieur Costaud, qui il doit arrêter, au lieu de chercher vainement dans l'ombre de votre première victime, du pauvre Chéri Bibi. » Chéri Bibi jeta ce dernier papier dans sa bouche comme il avait fait les autres. Il le mâchait d'un air bestial et tout à fait inintelligent. Il paraissait complètement hébété. Et il pleurait. Oui, des larmes silencieuses commençaient de couler le long de ses joues.
« Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur le marquis? Qu'est-ce qu'il y a ?»
implorait la ficelle. « Il y a que je vais mourir, mon bon la ficelle. » « Oui, on se croyait heureux, et puis, pan, voilà que je vais mourir. Ah, je n'ai pas de chance. »
Et il se reprenait à pleurer comme un enfant, s'essuyant les yeux avec sa manche. La ficelle, bouleversée, tomba à genoux.
« Relève-toi, » fit Chéri Bibi avec un sourire navrant. « Relève-toi et aide-moi à transporter dans le cabinet noir ce monsieur qui fait trop de bruit. Il gêne mes derniers moments. »
Pontmarie devenait en effet insupportable avec ses mouvements de grenouille récalcitrante. Ils le portèrent donc dans le cabinet, et comme il se reprenait à crier, ils lui remirent le bâillon. Après quoi, ils revinrent dans la chambre. Chéri Bibi tira de sa poche un revolver qu'il arma avec une grande tristesse. La ficelle se jeta sur son bras.
« Dieu du ciel ! Gémissait-il. « S'il est vrai que vous devez mourir, monsieur le marquis, tuez-moi auparavant. Mais sur la tête de votre enfant, dites-moi ce qui vous force à vous tuer. Dites-le-moi. Je vous trouverai peut-être bien un moyen de vivre. »
« Bon, la ficelle. Excellente créature. Cœur d'or. Brave compagnon de mes alarmes. Il n'y a plus rien à faire, crois-moi. » qu'à accomplir le dernier geste du destin. J'ai voulu venger Chéri Bibi, innocent de l'assassinat du marquis, mon père. Et sais-tu qui était l'assassin de mon père? Sais-tu qui est l'homme que Reine vient aujourd'hui dénoncer, preuves en main? C'est moi, moi, monsieur le marquis du Touchet, fils. L'assassin de mon père, c'était moi. Ah, la ficelle! Quand je te l'ai toujours dit que je n'avais pas de chance.
Mais tout de même, une déveine pareille. Il n'était pas distrait, le dieu qui m'a frappé. Il y a de quoi pleurer, n'est-ce pas? C'est vrai, je pleure comme un pauvre gosse. Non point parce que j'ai peur de mourir. Tu sais que je n'ai pas peur de la mort. Mais parce que je quitte Cécilie et mon cher petit moutard que j'aimais tant. Ah, ça oui, ça me fait chialer. Dire que je ne les embrasserai plus jamais. Jamais. Tiens, viens que je t'embrasse, la ficelle. Tu les embrasseras après, pour moi. Et puis, tu veilleras bien sur eux. Tu vas comprendre tout en deux mots. Si je meurs, Reine ne parlera pas. Elle me le promet, elle me le jure. C'est encore une brave femme. Elle me permet de sauver, par ma mort, l'honneur de mon fils. Au moins, mon fils n'aura pas un assassin pour père. Et je me tue pour eux, mon bon la ficelle. Mais cela, vois-tu, me relève à mes yeux et me donne du courage. Il regarde l'heure à sa montre. J'ai encore un bon quart d'heure. Tout de même, j'ai bien du chagrin. Ma belle Cécilie, mon cher petit Jacques. La ficelle était retombée à genoux et mêlait ses larmes à celles de chérie Bibi. Ma pauvre femme, elle était digne de tout mon amour, et je l'aimais comme on nous apprenait au catéchisme que les anges aiment le bon Dieu. Oui, malgré toute ma méchante vie, mon cœur était resté comme celui d'un enfant. Je l'avais conservé si pur pour elle, si beau. Je le lui ai apporté entre mes deux terribles mains, et elle ne s'y est point trompée. Elle l'a pris et elle m'a aimé. Alors, vois-tu, mon bon la ficelle, j'ai tort de me plaindre. Un bonheur pareil, il faut que je le paye. Et les portes de l'enfer peuvent s'ouvrir maintenant devant moi, puisqu'elle m'a aimé. Les deux hommes firent entendre un sanglot. Doux allègement d'une heure mourante. Souvenir, amour de Cécilie. Adieu, Cécilie. Adieu, mon petit Jacques. Adieu, la ficelle. Adieu, sœur Sainte Marie, qui a tant prié pour moi et qui n'a point connu mon bonheur. Adieu, vous tous que j'ai tant aimés. Et chérie Bibi leva son revolver. Mais la ficelle se précipita à nouveau avec un grand cri sur son bras. « Monsieur, monsieur, vous ne pouvez pas vous tuer !»« Pourquoi donc, la ficelle, mon ami ?»« Parce que votre mort, au lieu de sauver de la honte votre femme et votre enfant, les déshonorerait pour toujours !» Chérie Bibi fut frappée de l'exaltation triomphale de la ficelle, mais il ne le comprenait point. « Que veux-tu dire ? Monsieur le marquis a oublié les dessins qu'il s'est fait faire sur la poitrine. Mes tatouages ? Oui, les tatouages de chérie Bibi. Malédiction ! Jura chérie Bibi. Ce serait apprendre au monde que votre fils est le fils d'un forçat. Ce serait livrer votre secret. Malheureux ! Malheureux ! Trois fois maudit que je suis ! Jeta l'homme dans une suprême lamentation. Je ne pouvais sauver ma femme et mon fils que par ma mort, et je ne peux pas mourir. Fatalitas! Ce fut au tour de chérie Bibi de tomber à genoux. Il s'arrachait les chairs, il s'arrachait les cheveux à poignées. Et Reine va parler, et Reine va parler si je ne me tue pas. Et mon enfant, mon petit ange, comme moi, sera maudit. Dieu du ciel, si tu existes, accable-moi encore, toi qui m'as tant poursuivi, mais aie pitié d'un petit enfant. Que faire ? Que faire ? Que faire ? Monsieur, fit la ficelle qui était toujours en proie à son étrange enthousiasme, monsieur, il faut me tuer, moi. Que dis-tu ? Ton dévouement pour moi te rend fou. Ah, puisqu'il lui faut un cadavre à cette reine, elle l'aura. Tuez-moi, monsieur. Donnez-moi vos bijoux, vos bagues, votre montre, et quand vous m'aurez tué, brûlez-moi avec la maison. Brûlez-moi avec le château de vos ancêtres. Mais brûlez-moi bien, qu'on ne me reconnaisse plus. Défigurez-moi, et vous êtes sauvé. Et votre femme est sauvée. Et votre enfant est sauvé. On ne risque point avec moi de retrouver quelque bout de peau avec lequel l'ami costaud saurait reconstituer Chéri-Bibi. Tuez-moi, monsieur, et sauvez-vous. Disparaissez. Vous veillerez de loin sur Virginie et sur le petit que nous attendions, comme j'aurais veillé sur ceux que vous aimez si j'avais vécu. »
Chéri-Bibi écoutait la ficelle. L'écoutait. Et pendant qu'il l'écoutait, la lueur divine de l'espérance commençait à embraser son regard.
« Sublime amitié !» murmura-t-il. « Sublime inspiration !»
Et il se releva, et il dit à la ficelle en lui montrant la porte du petit cabinet où ils avaient enfoui M. de Pontmarie.
« Le cadavre ! Nous l'avons !»
En fait, Chéri-Bibi anticipait un peu sur les événements, car M. de Pontmarie était encore vivant. Mais nul doute que, dans son esprit, il le vit déjà mort. La ficelle avait compris.
« Vous voyez bien ! » s'écria-t-il, joyeux. « Vous voyez bien, monsieur le marquis, qu'il y a un bon Dieu !»
Chéri-Bibi regarda sa montre.
« Vite ! » dit-il. « Nous n'avons pas un instant à perdre. »
Et il s'en fut glissé cette montre dans le gousset de monsieur de Pontmarie, auquel il prit la sienne. Monsieur de Pontmarie avait été rapporté dans la chambre par les deux hommes. Ne comprenant rien à cette substitution de montre, ses yeux, à défaut de sa bouche, toujours garnie de son bâillon, demandèrent une explication que Chéri-Bibi et la ficelle ne jugèrent point utile de lui donner. Puis il y eut encore entre Chéri-Bibi et Pontmarie, avec une certaine brutalité, à cause que l'on était pressé, substitution de bagues. Enfin, Chéri-Bibi commençait de se déshabiller et allait passer ses vêtements à M. de Pontmarie quand la ficelle l'arrêta.
« Ce n'est pas la peine. Il sera si bien brûlé qu'il n'en restera pas grand-chose. Je vous demande une seconde. »
Il s'absenta quelques instants et revint avec des seaux, des pots et des bouteilles.
« Monsieur le marquis, j'ai pensé à l'incendie parce que ce nous sera une chose vraiment facile. Les ouvriers ont laissé tout ce qu'il fallait pour cela. Il y a des pots de peinture et d'essence de térébenthine, plein le couloir et le petit cabinet de débarras. La maison et le pauvre monsieur de Pontmarie vont flamber comme une allumette. »
Ce disant, il déposa ses récipients, se sauva, revint encore avec un paquet de loques maculées et 2 litres dans les bras.
« Qu'est-ce encore que ceci ? »
demanda Chéri-Bibi, tout en mettant ses propres souliers aux pieds de monsieur de Pontmarie pour plus de prudence.
« Ceci, répondit la ficelle en lui jetant les loques, c'est une blouse de peintre et une salopette que vous allez me faire le plaisir de mettre tout de suite. Déguisement tout trouvé pour vous enfuir par le petit escalier de service pendant que tout commencera à brûler ici, et que je m'occuperai, moi, en bas, à faire sortir Madame Cécilie et vos honorables convives.
Je te la confie, la ficelle.
Aie pas peur, monsieur le marquis.
Et cette bouteille, que fais-tu avec cette bouteille ?
Vous le voyez, monsieur le marquis, j'arrose de son contenu les vêtements de monsieur le vicomte de Pontmarie.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est du pétrole, monsieur le marquis.
Le prisonnier eut encore un sursaut, cependant qu'il roulait des yeux dont les globes semblaient prêts à sortir des orbites.
« Il croit que nous allons le brûler vivant, » fit Chéri-Bibi. « Il nous prend pour des sauvages. »
Ayant dit, Chéri-Bibi s'approcha par derrière de monsieur de Pontmarie, et lui passant autour du cou son mouchoir roulé en corde, il se mit en mesure de l'étrangler en lui faisant le moins de mal possible. Si M. de Pontmarie, sous l'action du garrot, continuait d'ouvrir des yeux de plus en plus épouvantables, Chéri-Bibi fermait les siens, car ce métier de bourreau lui répugnait plus que nous ne pourrions dire, et il eut peut-être, à cette heure de suprême désespoir, préféré mourir lui-même, tant il lui restait peu de courage contre les autres que de faire trépasser de sa main un homme qui avait tous les droits à réclamer l'exécuteur officiel des hautes œuvres.
Mais quoi ? Puisque Chéri-Bibi ne pouvait pas mourir et qu'il lui fallait un cadavre, il le fit.
« Encore un !» gémit-il en levant les yeux au ciel, quand ce cher vicomte ne donna plus aucun signe de vie. Pendant ce temps, la ficelle continuait d'arroser les corridors et les tentures du second étage avec ce qui lui restait de pétrole. Il revint avec une seconde bouteille.
« C'est fini ? » demanda-t-il.
« C'est fini, »
annonça Chéri Bibi en soupirant.
« Il ne nous reste plus, » fit la ficelle, « qu'à défigurer un peu à tout hasard monsieur le vicomte. »
Et comme il s'agenouillait auprès du vicomte et promenait soigneusement sur les traits convulsés du mort un pinceau qu'il avait préalablement trempé dans sa bouteille, Chéri Bibi, curieux, jeta un regard sur l'étiquette. Alors il comprit. Son secrétaire peignait le visage de l'homme au chapeau gris avec de l'acide sulfurique. Le vitriol accomplissait avec une rapidité terrible son œuvre de transformation.
« Là, maintenant, il n'y a plus de danger que l'on ne reconnaisse pas le visage de monsieur le marquis du Touchet !»
exprima la ficelle en se relevant et en se retournant du côté de son maître. Puis, lui tendant les bras,
« Et maintenant, embrassons-nous, monsieur le marquis, il faut nous quitter !»
Ils s'embrassèrent.
« Mon bon, la ficelle !»«
Mon bon, monsieur le marquis !»
reprenait la ficelle, toujours respectueux en dépit de son immense émotion. Ils se séparèrent, après avoir encore parlé de Cécilie et de l'enfant. Chéri Bibi se précipita dans l'escalier de service, et la ficelle se prépara à allumer son feu. Mais tout à coup, il voyait réapparaître Chéri Bibi, haletant, plus hagard que jamais.
« Malheur ! L'escalier de service est gardé ! Sur mon ordre, je l'avais oublié !»
« Les agents de Costaud !» s'écria la ficelle. « Ben quoi ? On passe au travers !
Ils me reconnaîtront ! Ils sauront que c'est le marquis qui s'est enfui ! Reine saura que je ne suis pas mort, et Reine parlera !»
Maintenant, il semblait déliré.
« Non, » s'écriait-il. « Non, le marquis du Touchet n'est pas mort. Il n'est pas mort !»
Chéri Bibi faisait pitié à voir, à cause du regard de folie qu'il promenait sur les choses. Sur la face de Pont-Marie, dévorée par l'eau de feu, sur la bouteille de vitriol encore à moitié pleine. Il répéta, au comble de l'exaltation,
« Le marquis du Touchet n'est pas mort tant que son visage existe !»
Enfin, il s'avança d'une façon si tragique vers la ficelle que celui-ci comprit. Oui, il comprit, car Chéri Bibi lui montrait le vitriol.
« Non, non, pas ça ! Pas ça !»
clama le malheureux la ficelle.
Si tu ne fais pas cela,
râla Chéri Bibi, tu entends la ficelle, si tu ne me peins pas, toi aussi, le visage comme tu viens de le faire à ce misérable, tu n'es pas mon ami.
Pas ça, pas ça.
Non, tu n'es pas mon ami, parce que tout ce que nous aurons fait ne servira à rien tant que ce visage existera. Parce que je ne puis pas m'enfuir tant que ce visage existera.
Pas ça, pas ça.
Regarde ces gens qui veillent sur ce château. Veux-tu qu'ils voient, s'enfuyant à la lueur de l'incendie, le visage du marquis du Touchet? Veux-tu que Reine le voie? Allons, du courage, la ficelle.
Du courage, mon ami.
Chéri Bibi, pas ça, pas ça. Jamais, jamais.
C'était la première fois que, depuis bien longtemps, la ficelle redonnait à son maître le doux nom de leurs aventures d'autrefois. Il le prononça sur un ton de si lamentable désespérance et de si profonde, de si sublime amitié, que Chéri Bibi attira la ficelle sur son cœur.
« Embrassons-nous et disons-nous adieu, mon bon la ficelle.
Non, non, je ne te demanderai pas cela. Je le sais, tu m'aimes trop. »
« Non, pas à toi.
Là, ne pleure plus, je m'arrangerai tout seul.
Écoute, j'ai tant souffert pour avoir ce visage-là que je puis bien souffrir encore un peu pour le perdre. »«
Souffrir encore un peu ? Ne fais pas ça, chérie Bibi, ne fais pas ça. On dit que c'est l'enfer. »«
L'enfer m'appartient, la ficelle. Je m'en étais échappé, j'y retourne.
Qu'importe, n'en ai-je pas moins aimé ?
Et mon fils ne maudira pas ma mémoire.
Adieu, mon bon ami.
Va-t'en, il le faut. C'est l'heure, et j'ai besoin de tout mon courage. »
Il l'embrassa encore une fois, et le porta comme un enfant sur le palier,
tandis que le petit sanglotait dans ses bras puissants.
« Allons, songe à ce que je t'ai dit. Va les sauver. Dans 5 minutes, j'aurai mis le feu à tout ça. »
Et il ferma la porte du palier à clé. La ficelle joignit les mains, puis descendit l'escalier comme un homme ivre. Il glissa le long des murs, passa comme une ombre devant la salle à manger, où il se faisait entendre un bruit de voix tranquille. Monsieur le président du tribunal racontait une histoire. Il traversa le salon. Il se dirigea vers Reine, qui, appuyée au bras de Sœur Sainte-Marie, avait dans ses voiles noirs une pâleur de spectre. Il lui dit « Monsieur le marquis a dit que c'était entendu et que vous seriez contente. » Et il quitta cette femme pour ne point la tuer. Il pénétra dans le jardin, tourna le château, monta sur un tertre et regarda s'il pouvait distinguer quelque chose là-haut, au second étage, où il n'y avait encore qu'une petite lumière. Alors, il aperçut distinctement, presque collée à la vitre, la figure de Monsieur le Marquis du Touchet, sur la bouche de laquelle Chéri Bibi mettait un baillon.
« Le malheureux, c'est pour qu'on ne l'entende pas crier. Ah, il n'y a pas 2 hommes sur la terre pour avoir un courage pareil. Mon pauvre Chéri Bibi, mon pauvre Chéri Bibi. Et tout ça pour ton gosse, pour ta femme. Ah, sûr que t'es un honnête homme. »
Il se rappela la promesse qu'il avait faite de veiller sur ces 2 chères créatures. Et il retourna au château en sanglotant. Il fallait sauver Cécilie. Quant aux enfants, ils étaient restés à la villa de la falaise. Dans la salle à manger, Cécilie finissait par être tout à fait inquiète de l'absence prolongée de son mari. Elle avait beau se rappeler qu'il l'avait prévenue, elle ne parvenait pas à masquer le trouble de son âme. Le mystère de ce repas devenait de plus en plus inexplicable pour elle. L'attitude des convives, les mines même de Monsieur Costaud, ajoutaient à son angoisse. Celui-ci surtout, qui paraissait être plus au courant que les autres, lui faisait peur, au lieu de la rassurer, par son air entendu. Costaud, sentant leurs proches, crut pouvoir dire « Madame, je pense que nous allons faire un beau coup ce soir, grâce à Monsieur le Marquis. Mais ne vous inquiétez pas, toutes nos précautions sont prises et mes hommes sont là. »
« Quel coup ?»
demanda Cécilie de plus en plus agitée.
« Ah, voilà, c'est un secret.
Est-ce qu'on va enfin arrêter Chéri Bibi ?»
demanda le président du tribunal en manière de plaisanterie.
« Peut-être, répliqua l'autre bien sérieusement, mais c'est à monsieur le marquis qu'il faut le demander.
« Vous m'épouvantez !» s'écria la malheureuse femme en se levant. Mais elle n'en dit pas plus long et ne bougea plus. Et toutes les figures autour d'elle se firent, comme elle, extraordinairement attentives, car on commençait d'entendre une sorte d'ululement prolongé, lent, sourd et funèbre, qui venait des étages supérieurs et qui vraiment donnait à tous froid dans le dos.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?» balbutia Cécilie.
« Oui, quelle étrange plainte !» souffla le juge d'instruction.
« On dirait quelqu'un qui étouffe !» exprima le président.
« Oh, mais c'est affreux !» fit Cécilie qui chancela.
Costaud était déjà debout, aussi inquiet que les autres.
« Oui, il faut voir. »
La plainte, traversant les planchers et les murs, s'était faite plus forte, plus douloureuse. Toute la maison en résonnait comme une caisse sonore. Ils se précipitèrent tous sur la porte, Cécilie en tête, mais déjà la porte s'ouvrait brutalement et la ficelle, avec des gestes d'halluciné, apparaissait en criant
« le feu, sauvez-vous, sauvez-vous »
Ce fut une bousculade inouïe. Heureusement que la ficelle protégeait Cécilie, sans quoi elle eût été piétinée. Cécilie criait
« Maxime, Maxime, où est le marquis? Maxime, où es-tu ?»
Et elle essayait de s'arracher des bras de la ficelle qu'il avait fait sortir de force du château.
Costaud criait « C'est Chéri Bibi, c'est Chéri Bibi qui a mis le feu !»
et il appelait ses agents qui accouraient de tous les côtés du parc, attirés par les premières lueurs de l'incendie. Le feu avait pris là-haut, au deuxième étage, et déjà les combles n'étaient plus qu'un brasier. La marche du fléau était foudroyante, une flamme immense léchait la nuit noire, et les agents, eux aussi, criaient
« Chéri Bibi, Chéri Bibi, c'est Chéri Bibi qui a mis le feu. Nous l'avons vu, nous l'avons aperçu qui courait au dernier étage. Il est encore dans la maison. Vous l'entendez? C'est lui qui crie. Il brûle.
Ah, cette fois, nous le tenons. Il faut le prendre ou le faire griller. » rugissait Costaud. Au-dessus de toutes les clameurs, des cris des domestiques qui étaient sortis des sous-sols, des appels des agents et des magistrats qui cherchaient le marquis, au-dessus même des plaintes désespérées de Cécilie qui continuait d'appeler Maxime et qui suppliait tout le monde de sauver son mari, au-dessus de tout cela grondait encore cette longue, longue, effroyable lamentation sourde. Elle ne se tut qu'avec l'effondrement du plancher du second étage. « Pourvu qu'il ait eu le temps de se sauver !» murmurait la ficelle qui ne lâchait pas Cécilie, redoutant à chaque instant un acte de désespoir. On avait beau dire à la marquise que son mari avait dû quitter le château et que c'était ainsi qu'il fallait s'expliquer sa longue absence, elle voulait retourner dans la maison en flammes, s'assurer par elle-même qu'il n'était pas là, et s'il était là, tenter de le sauver ou de mourir avec lui.
« Maxime ! Maxime !»
Songeant tout à coup qu'elle pouvait encore monter au premier étage par le petit escalier de service qui n'était pas atteint par les flammes, elle repoussa brutalement la ficelle et y courut. Derrière elle, on se précipita. Les agents criaient « Prenez garde ! Prenez garde ! Chéri Bibi ! Chéri Bibi ! Nous l'avons encore vu tout à l'heure, là, à la fenêtre de la tourelle !» Costaud arriva à son tour, derrière Cécilie, et cette fois ce fut un cri, un terrible cri de Cécilie, qui désigna à Costaud et à ses agents Chéri Bibi lui-même. La porte de service venait d'être poussée, et sortant d'un nuage de fumée, diaboliquement illuminé par le crépitement des étincelles, surgissait une espèce de monstre à demi nu, un être hideux, dont la figure n'était plus qu'une plaie, dont la bouche n'avait plus qu'un râle, et dont la poitrine portait, comme une enseigne, l'estampille infâme « Chéri Bibi ». Ah, il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien lui. Déjà ramassé sur lui-même, il se préparait à foncer dans la nuit à travers les agents de Costaud, quand il aperçut Cécilie devant lui, qui le désignait à leur cou et qui lui barrait le passage en criant comme une démente « Chéri Bibi ! Chéri Bibi !» Alors on vit le monstre se frapper le cœur avec un cri sauvage et se rejeter dans la fournaise. Sa silhouette flamboyante apparut encore, çà et là, comme le démon de cet enfer. Et puis Chéri Bibi lança dans la nuit, pour la dernière fois, son terrible cri de guerre « Fatalitas !» Et puis, ce fut le chaos. Et puis, le château du Touchet finit de brûler, tranquillement, en silence, car on avait emporté Cécilie, quasi morte. Le lendemain, on retrouva les restes du marquis Maxime du Touchet, que tout le monde plaignit comme la dernière victime de Chéri Bibi. Mais on ne retrouva jamais les restes de Chéri Bibi. Ce qui faisait dire à cet entêté de Costaud « Vous croyez qu'il est mort ? Nous en reparlerons peut-être un jour. »